J'étais Giro dans les clubs de vacances avant, pendant 4 ans et demi.
Je suis un peu biaisée parce que ma mère est actrice. Mon père était directeur de théâtre.
Je voulais être dans la police criminelle.
On m'a fait découvrir des auteurs, donc Lagarce, Tchekhov. Je me suis intéressée au cinéma, c'est la première fois que j'ai lu un livre en entier.
Je pensais pas faire ce métier. J'étais animateur.
J'ai travaillé en intérim, j'ai été coursier, barman, vigile, j'ai tout fait.
Toute une classe de jeunes comédiens et comédiennes dans leur dernière semaine de travail au conservatoire, le temps d'un spectacle de fin d'année, Hamlet. Pour son 7e film, sans compter les cours et les projets pour la télé, Valérie Donzelis se lance dans le documentaire et attrape l'énergie, la joie, les doutes, les désirs de ces jeunes gens avec toujours cette question mystérieuse, pourquoi devient-on comédien ? Bonjour Valérie Donzelis.
Bonjour.
Rue du Conservatoire est un film de commande, puisque une des jeunes comédiennes, Clémence, vous le demande. Mais pourquoi avoir dit oui ?
Pourquoi avoir dit oui ? Parce que je crois que j'en ai eu envie, en fait. J'ai eu envie de continuer l'aventure avec eux. J'avais fait une masterclass avec cette promotion et on avait fait un petit court-métrage super. Et je les avais trouvés incroyables. Donc Clémence, c'est vrai que elle m'avait un peu tapé dans l'œil et tout. Je la trouvais très fantaisiste, très 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 belle, intelligente, énergique. Et donc quand elle est venue me voir, je me suis dit bon, cette fille, elle ne va faire que des choses bien de toute façon. Donc allons-y. Il n'y a pas grand risque à prendre.
Mais n'était-ce pas aussi pour vous l'occasion de rentrer dans le conservatoire là où vous avez échoué, puisque vous n'avez pas réussi à passer le concours?
Oui. Mais ça, je l'avais déjà fait en faisant la masterclass. Parce que depuis, j'avais fait la masterclass, ensuite j'avais participé au jury, j'étais dans le jury du concours d'entrée. Donc c'était pas tellement pour cette raison, non, c'était vraiment pour continuer l'aventure avec eux, de continuer de faire quelque chose avec eux, parce que je les ai vraiment adorés. Et après, c'était aussi l'envie de faire un film dont je ne savais absolument pas ce qu'il deviendrait. Vraiment comme une promesse, avec un désir d'avenir, et puis de me jeter comme ça dans l'aventure. Ça me plaisait en fait aussi d'aller dans une production plus petite, de faire quelque chose de beaucoup plus artisanal, de moins formaté que le cinéma que je venais de faire justement avec L'amour et les forêts, tout ça qui venait d'être terminé, qui était un film plus produit et tout, qui n'était pas sorti encore. Et donc c'était bien, en attendant la sortie de L'amour et les forêts, de faire cette petite friandise.
Votre nom est associé, Valérie Donzelis, à des rôles de comédienne, mais aussi de scénariste, de réalisatrice, bien évidemment. Or, dans le film, vous racontez que vous avez fait du théâtre, mais à 11 ans.
Oui.
Pas beaucoup plus.
Alors,
pas davantage.
Un petit peu. J'ai fait le conservatoire du 10e arrondissement pendant un an et demi à peu près. Et puis j'ai fait, oui, j'avais une petite troupe de théâtre à l'école où on était avec ma sœur, qui s'appelait la troupe Scaramouche, et on faisait des pièces.
Ça commence par là, le désir d'être comédien, c'est-à-dire finalement en jouant avec des jeunes gens de son âge, en se déguisant, en prenant les mots des autres, ou on rêve de cinéma tout de suite?
Alors ni l'un ni l'autre, en fait, moi j'ai jamais voulu vraiment être actrice, comme en me disant plus tard je ferai ça. Ce que je savais, c'est que je voyais les adultes au travail et je savais qu'il fallait faire un métier qui nous plaît. Parce que j'avais pris conscience qu'adulte, en fait, le travail c'était l'endroit où on passait le plus de temps. Et donc moi j'avais en tout cas conscience que je voulais faire un métier qui m'amuse. Mais c'était pas aussi précis que je serais actrice ou je ferais du cinéma et tout ça. Surtout que le cinéma, pour le coup, j'avais l'impression que c'était vraiment pas du tout à ma portée, quoi. C'est venu beaucoup, beaucoup plus tard dans ma vie.
Pour qui est loin du milieu du théâtre, il faut dire quand même deux, trois mots sur le conservatoire, le cons, on dit souvent. Est-ce que si je dis que c'est l'école la plus ancienne et la plus prestigieuse de formation d'acteurs ? Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
Alors, la plus ancienne, oui, je pense. La plus prestigieuse, maintenant, il y en a quand même d'autres. Hein. Il y a l'école de Strasbourg, le TNS. Il y a l'école de la Rue Blanche, bien sûr. Et puis, il y a beaucoup d'autres écoles. Alors, je crois qu'il y en a, il y en a une qui est très bien aussi. Je crois que c'est à Aubervilliers. Moi, j'avais travaillé avec des élèves d'Aubervilliers quand j'avais enseigné à la FEMIS. Ils étaient vraiment formidables. Mais bon, après, c'est le plus dur, en tout cas. C'est le concours le plus dur parce que il y a 2000 personnes qui se présentent et 30 personnes qui sont reçues.
Et quand même, ce qu'il faut dire, c'est que l'institution a beaucoup évolué. Au départ, c'était la voie d'entrée pour rentrer à la Comédie-Française. Aujourd'hui, ça l'est peut-être encore, mais pas forcément. Mais surtout, l'école s'est énormément diversifiée.
Oui, l'école a beaucoup changé. Claire, elle a été... Donc,
Claire Lannes d'Arcueil.
Claire Lannes d'Arcueil a été directrice pendant 10 ans. Elle a quitté le conservatoire en même temps que cette promotion que j'ai filmée. Et c'est vrai qu'elle a ouvert le conservatoire à tous. Elle a permis à ce que l'école accepte vraiment tout le monde et que les gens soient au courant que ce concours, ils pouvaient aussi le présenter, pas seulement ceux qui habitaient à Paris, mais même ceux qui habitaient dans des coins plus perdus de France, dans les grandes banlieues, tout ça. Voilà, elle a vraiment fait ce travail-là, de leur dire « Venez, cette école, vous avez le droit de la présenter, elle est à vous, vous avez le droit d'y rêver ». Et puis ensuite, elle a fait beaucoup venir le cinéma dans l'école. Donc, il y a des films qui ont été faits, comme par exemple le film de Guillaume Braque à l'abordage, qui d'ailleurs cartonne, je crois, sur Netflix. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Avec les élèves du conservatoire, il y en a eu d'autres et tout. Et puis moi, c'est comme ça que je suis rentrée dedans. C'est qu'elle m'a dit, viens faire une masterclass sur le jeu d'acteur au cinéma. Et j'ai dit, mais d'accord, quoi.
Et vous avez reconnu chez tous ces jeunes gens quelque chose de vous? Il y a eu un effet miroir entre eux et vous, puisque vous avez une génération de différence, en fait?
Oui, forcément, puisque moi, j'ai eu 25 ans, avec aussi l'envie de faire partie d'un collectif et tout ça. Donc, ce que je dis un peu dans le film, c'est que j'aurais aimé être ces jeunes-là. J'aurais aimé, moi, avoir une famille comme ça et faire des choses tous ensemble et tout. Alors, c'est venu plus tard, j'ai eu un autre chemin et j'en suis très contente. Mais c'est vrai que rentrer dans une école, c'est ça qui est beau et fort, c'est qu'on se crée des amis, on se crée une famille avec laquelle on peut peut-être construire des choses, monter des troupes de théâtre, monter des compagnies. Et puis préparer l'avenir, quoi.
Valérie Donzelli, rue du Conservatoire, on poursuit cette conversation autour de votre film après avoir pris des nouvelles du monde. C'est notre rendez-vous hebdomadaire ailleurs. Ailleurs à Berlin avec Thomas Michelon, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Vous êtes conseiller culturel de l'ambassade de France en Allemagne et directeur de l'Institut français. Vous accueillez cette semaine la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts. Alors, pas le château, bien sûr, mais l'équipe de la Cité, les artistes et des activités, notamment pour l'apprentissage du français. Pour quelles raisons ?
Oh, on est parti d'un principe assez simple. Déjà, il y a un cadre. Comme vous le savez, la France accueille le 19e sommet de la francophonie les 4 et 5 octobre, pour la première fois depuis 33 ans. Donc c'est un événement tout à fait majeur. Et dans ce cadre, il y a plusieurs initiatives qui ont été portées à la fois en France, le festival Refaire le Monde, le festival de la francophonie, qui se déploie à la Gaîté Lyrique, au 104 et à la Cité internationale d'ailleurs, et également à la Station F. Et puis à l'étranger, l'Institut français de Paris a lancé une initiative qui s'appelle la résonance internationale du sommet. Et l'idée, c'était de mobiliser le réseau des instituts français à l'étranger autour du sommet de la francophonie pour que l'on crée lieu après lieu, pays après pays, des initiatives pour célébrer donc cet accueil du sommet de la francophonie.
Alors l'Allemagne n'est pas un pays francophone comme le conçoit l'OIF, mais est-ce que Berlin est une ville francophile ?
Eh bien, curieusement, on ne le sait pas assez, mais l'Allemagne compte à peu près 12,5 millions de francophones, c'est à peu près 15% de la population, et rien qu'à Berlin, il y a à peu près 52 000 apprenants de français, et à peu près 30 000 français. Donc, ce qui peut paraître contre-intuitif ne l'est pas, à vrai dire. Et depuis 25 ans, vous avez bien vu, vous connaissez bien la ville s'est profondément transformée, et c'est une ville cosmopolite, c'est une ville multilingue, avec de très nombreuses communautés francophones. Et notre idée, c'était à la fois de valoriser cette francophonie berlinoise, et puis de porter, en fait, tout simplement, le visage de la Cité internationale de la langue française auprès d'un public berlinois, auprès de la jeunesse berlinoise, pour qu'ils comprennent exactement l'esprit de cette nouvelle institution.
Donc vous allez accueillir Paul Rondin, le directeur de la Cité, Barbara Cassin, qui est la philosophe qui a porté cette cité aussi, la rappeuse Vicky R. J'imagine que toute l'année, des artistes français viennent dans votre institut. Ça, c'est une évidence. Vous parliez de la place des Français, de la langue française, mais qu'en est-il de la francophonie au sens non européen du terme ?
La francophonie, elle existe. Déjà, l'autre cadre dans lequel on inscrit notre action, c'est la coprésidence que nous avons cette année, nous, ambassade de France, avec l'ambassade du Congo. Et donc, on a organisé tout au long de l'année une quarantaine d'événements, que ce soit la fête de la francophonie en avril dernier, ou des manifestations qui étaient liées aussi aux Jeux olympiques et paralympiques qui sont déroulés à Paris, donc dans le courant de l'été. Et franchement, on a été agréablement surpris de voir l'écho très positif de la population berlinoise, francophone ou non francophone, qui s'intéresse en fait à ce sujet-là et qui y voit un espace de liberté, de création, de créativité, d'inventivité qu'ils ne soupçonnaient pas forcément à l'origine. Donc l'idée, c'était vraiment pour nous, avec Paul Rondin, d'organiser un festival populaire au sens noble du terme, avec des conférences, des concerts, des interventions autour d'humoristes, justement pour montrer toute cette vitalité, toute cette force de la scène francophone berlinoise, mais aussi de co-construire donc un programme qui nous permettrait donc de montrer toute l'inventivité que porte la Cité internationale de la langue française à l'heure actuelle.
Merci Thomas Michelon. Le Festival des francophonies à Berlin, c'est donc du 22 au 24 septembre. Merci beaucoup. Que le Suisse en duo avec Giorgio Poi, l'italien sur RFI. Tic Tac, c'est le titre de la chanson, et Bingo Paradis, celui de l'album. Valérie Donzelli, en passant quelques semaines comme ça pour les besoins de votre film Rue du Conservatoire, quel aura été votre regard ? Est-ce que vous les avez regardés comme une réalisatrice, comme une scénariste, comme une comédienne ? À quoi vous avez été attentive ?
Je crois qu'il y a deux choses. Je les ai regardées comme une réalisatrice, puisque j'étais en train de faire un film, mais aussi comme une femme de 50 ans qui regarde des jeunes au début de leur vie, en train de s'amuser, en train de... sans se prendre au sérieux.
Avec un peu d'envie ?
Non, j'avais pas d'envie. J'étais juste heureuse de pouvoir... Je me suis sentie très privilégiée de faire ça. J'étais heureuse de pouvoir être avec eux et de les regarder voilà, avec bienveillance et le désir de filmer ses visages, ses beautés, ses intelligences, ses physiques si différents. Ils ont tous une particularité, ils ont tous... Donc c'était ça qui était intéressant en fait.
Dans votre film, Claire Lane d'Arcueil, donc, qui a dirigé le conservatoire pendant 10 ans, dit de très belles choses sur le regard. Elle dit qu'elle a passé une grande partie de sa vie, en tant que metteuse en scène aussi, mais aussi directrice du conservatoire, à regarder les corps.
Oui, elle dit même les bricoles, la petite bricole. En fait, je crois que ce qu'elle veut dire, parce que je crois que quand on met en scène, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que quand on regarde quelqu'un, on ne le regarde pas simplement. On cherche quelque chose chez lui. Et ce qu'on cherche, c'est, je crois, ce supplément d'âme. C'est l'endroit de la magie, l'endroit de la beauté, en fait, chez une personne. Et je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Et c'est vrai que les acteurs, il y a ça. Un acteur, d'un coup, il peut s'illuminer en jouant. Il peut... D'ailleurs, souvent, il y a beaucoup d'acteurs qui sont très timides, qui ne sont pas du tout... On peut penser comme ça qu'être acteur, c'est forcément être showman et tout, mais pas du tout. Il y en a qui ont une réelle timidité. D'ailleurs, dans le film, il y en a plusieurs qui le disent, qui sont pudiques, timides, que c'est difficile aussi. Et puis, ils sont... à un moment donné, ça les dépasse. Ils ont besoin d'exprimer des choses à travers les mots des autres, à travers le regard de quelqu'un. Et ça leur fait du bien. C'est nécessaire. C'est pas une pause, en fait. C'est une... Ça les dépasse, quoi.
Rue du Conservatoire est un documentaire, donc vous ne leur avez pas demandé de jouer un rôle. Non. Mais vous les avez filmés jouant, travaillant leur propre rôle. Oui. Ça fait une mise en abîme assez, assez étrange, parce qu'ils sont naturels, mais non, ils sont naturels comme des comédiens le sont, c'est-à-dire jouant.
Oui, mais c'est ça qui était vachement intéressant, c'est que souvent... alors, moi, j'ai jamais fait de documentaire, hein, mais ce qui est dit dans le documentaire, c'est qu'il y a des documentaires qui sont difficiles à faire avec les avocats et avec les acteurs, parce que souvent, ils ont tendance à cabotiner, à vouloir... Alors là, c'est pas le cas, je trouve. C'est ça qui était génial, c'est que vraiment, ils oubliaient que j'étais là. Et donc, ils n'ont pas du tout joué devant la caméra. Ils n'ont pas cherché jamais à prendre plus de place l'un, l'autre. Personne n'a essayé... De récupérer quelque chose dans
mais
le film.
Mais on comprend quand même ce qu'est jouer, ce qu'est
bien
que
sûr.
Jouer, c'est-à-dire changer la voix, changer la vitesse, avoir une autre adresse. On comprend ce que c'est que cette, je ne vais pas dire magie, mais alchimie, travail.
Oui, c'est ça. C'est surtout qu'on comprend ce qu'est le travail d'un acteur au théâtre, en tout cas. C'est-à-dire à la fois comme metteur en scène, comme acteur, de voir les questions qui se posent sur les textes, que tout ça, c'est du travail. Et souvent, d'ailleurs, c'est des métiers qui ne sont pas considéré comme des travaux, enfin un travail, être acteur, faire des films, tout ça. Les gens, ils ont toujours l'impression que voilà, ça va, c'est facile et tout. En fait, non, d'abord, c'est très dur. Faut beaucoup de courage pour faire tout ça parce que c'est des routes qui sont pleines d'embûches, dont on ne sait jamais de quoi on va vivre et tout ça. Alors, il y a évidemment quelques personnes qui sont très, très privilégiées, mais c'est quand même pas beaucoup. Et la plupart des comédiens ont du mal à joindre les deux bouts et tout. C'est difficile, le théâtre, faire du théâtre, faire du cinéma. Il y a des tas de films qui se font avec très peu d'argent et on sait jamais si on va pouvoir financer ces films et tout. Donc, c'est pas facile, c'est un vrai travail, en fait. Et c'est un travail de le faire aussi, de le fabriquer, ce cinéma et ce théâtre.
Rue du Conservatoire, bande annonce.
Pour ceux qui ne savent pas encore, Hamlet, c'est la pièce la plus jouée. Aujourd'hui, n'hésitons pas à en faire trop.
De quoi parle la pièce?
Bah, la pièce de Clémence ou Hamlet?
Juste pour t'expliquer, Ophélie, sans faire exprès, tue Hamlet.
Je comprends qu'Hamlet est intouchable. Et Clémence le tue, le fait renaître et jouer par une femme. Carrément.
Elle me dit non, pas du tout, c'est pas politique. Non, non, pas du tout, pas du tout. Et ça l'est.
Je voulais juste montrer la liberté qu'on pouvait avoir, en fait.
Clémence s'accroche, elle enchaîne les répétitions, mais je crois qu'elle ne dort pas beaucoup.
Je sais pas ce qui m'a pris de monter Hamlet. C'est un cauchemar.
Non, je l'avais pas vu là-bas.
C'est pas vrai.
C'est pas vrai, putain.
On a perdu deux acteurs, il y en a une qui est borgne.
Extrait ou plutôt bande-annonce de votre film Valérie Donzelli, rue du Conservatoire, où vous filmez justement cette troupe, ce collectif, et c'est ça qui est très beau. Et c'est un peu quand même l'apanage de la jeunesse, parce que dans la vie, ça ne fonctionne pas toujours comme ça, que ce soit au théâtre ou au cinéma, quand on est acteur.
Oh, je ne sais pas.
Si.
Je pense que si, ça doit dépendre aussi des mentalités, tout ça. Non, je pense qu'il doit y avoir des troupes d'acteurs, enfin... Je veux dire, Ariane Mnouchkine, c'est ce qu'elle a voulu faire aussi avec son théâtre, quelque chose de très collectif, et c'était il y a quelques temps, et ça continue. Enfin, non, je pense que c'est un tempérament, c'est un état d'esprit.
En tout cas, dans votre film, vous assistez aux répétitions, et on les voit avancer vraiment ensemble, tâtonner, essayer ensemble. Il n'y a pas de surplomb, il n'y a pas d'effet d'ego, etc., etc. Ils sont ensemble dans un même mouvement, qui est de mettre en scène Hamlet au féminin. C'était gonflé, quand même. Est-ce que ça a participé à votre envie de les filmer, ce projet de monter le chef-d'œuvre de Shakespeare, ou en tout cas l'une des pièces les plus jouées et les plus connues, mais en la détournant?
Oui, alors au départ, je ne savais pas trop qu'elle l'avait détournée, mais quand elle m'a dit qu'elle allait monter Hamlet, je me suis dit, bon, c'est quand même assez génial de monter Hamlet à 26 ans avec du conservatoire. La particularité, là, dans le film, c'est que Clémence, elle y élève, en fait, donc c'était leur camarade de classe, et d'un coup, elle devait prendre un peu les rênes et la position de la metteur en scène face à ses copains. Donc c'était ça qui était touchant aussi, c'est que elle avait à la fois, elle devait être crédible et se faire respecter comme metteur en scène, et en même temps elle avait envie de rigoler avec eux. Donc parfois je la sentais aussi dans cette solitude que connaissent les metteurs en scène.
Vous avez vu le spectacle final?
Ah ben oui, je l'ai vu plusieurs fois même.
Et alors c'était comment? Parce qu'on ne voit rien du spectacle
parce que
le film.
Oui, c'est vrai. Moi, mon film, ce n'était pas sur le spectacle, en fait. Ça ne m'intéressait pas beaucoup de montrer les résultats. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer le chemin par lequel passent Clémence et ses acteurs. Mais le spectacle, je l'ai vu, bien sûr, et il est super, son spectacle. Et puis, il a été rejoué, surtout, puisqu'elle l'a rejoué l'année dernière au TGP. Et elle va le rejouer en janvier, c'est un spectacle qui va tourner et tout, donc c'est formidable pour elle.
Clémence, donc, qui joue le rôle de la metteuse en scène, dit que Hamlet, c'est la vie, et elle l'illustre d'ailleurs lors du premier filage, c'est-à-dire la première fois qu'il joue la pièce dans l'intégralité.
Ok, on va se mettre en rond. Donc toute l'équipe est là pour le spectacle. Bon. Ils sont là pour voir un autre. Ça fait 3 semaines que nous sommes donc en travail. Il nous reste, pour vous dire, 2 semaines et 4 jours. Voilà. Le travail qu'on a fait en 3 semaines est dingue. Le travail qui nous reste aussi est dingue. Là, le monstre, c'est un monstre. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à bien faire. Soyez dans cette même fougue. On ne veut pas du bien, on s'en fout. Aujourd'hui, n'hésitons pas à en faire trop. Trop ne veut pas dire gueuler, mais trop veut dire, même si vous sentez que vous n'êtes pas, que c'est un peu maladroit ou quoi, c'est magnifique. Chaque scène aussi est la dernière. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, Michael. Michael, quand tu viens dire à ta sœur au revoir, c'est la dernière fois. Toutes vos scènes, c'est la dernière fois. Il ne faut pas oublier ça.
Valérie Donzelli, vous donnez des consignes comme celle-ci quand vous êtes réalisatrice, metteuse en scène?
Non, parce que le cinéma, ça se refait. C'est pas la même temporalité. Donc non, je peux pas diriger un acteur de cinéma dans un film en lui disant comme si c'était la dernière fois, parce que on va peut-être refaire une prise pour des problèmes techniques. Donc c'est autre chose. Mais peut-être que si je faisais une mise en scène au théâtre, je dirais ça. Avant de jouer, oui, il faut... Enfin, de toute façon, c'est ça qui est très beau avec le théâtre, c'est que c'est vraiment un spectacle vivant, quoi. Donc c'est tout de suite et maintenant. Et la représentation du lundi n'est pas la même que celle du mardi. Donc à chaque fois, c'est la dernière fois. C'est comme s'il jouait pour la dernière fois.
Oui, c'est l'art du présent. Ce que vous dites dans le film, d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Quels sont leurs modèles, leurs références à ces jeunes comédiens? Parce qu'à un moment, dans le film, l'un d'eux parle de Nada. Donc j'imagine que c'est Nada Strancard qui a joué avec Antoine Vitez, qui est une référence absolue dans le théâtre français de la deuxième partie du XXe siècle. Mais il n'était pas né quand il est mort. Donc ça m'a étonné que tout d'un coup, ce mot de Vitez apparaisse sur leur bouche.
Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Bah, je ne sais pas, parce que alors, pour le coup, je n'en ai pas du tout parlé avec eux. Mais après, je pense que c'est aussi l'effet conservatoire. C'est-à-dire que quand on va au conservatoire, il y a la salle Cazares, il y a la salle... Enfin, toutes les salles ont des noms comme ça de cette génération. Donc, je pense que c'est comme ça qu'ils connaissent tout ça. C'est parce qu'ils sont au conservatoire. Mais je n'ai pas du tout parlé avec eux... de quelles étaient leurs inspirations et tout.
Non. Mais être comédien ou comédienne, c'est porter l'histoire du cinéma ou du théâtre, en partie?
Je ne sais pas si c'est porter l'histoire. Au théâtre, on quand on joue des classiques, forcément, on porte l'histoire des textes, quoi. Parce que, mais bon, après, il y a un théâtre contemporain et tout, quand même. Mais les textes et les pièces sont quand même énormément joués encore et encore. Donc oui, quand on est à la Comédie Française, par exemple, bon, ben, voilà, on porte une certaine histoire du théâtre. Après, le cinéma, non, puisque c'est l'avenir du cinéma, tous ces jeunes. Donc, ils vont faire des films nouveaux, ils vont jouer dans des... Donc, je ne peux pas dire qu'ils portent l'histoire de quelque chose, quoi. Le futur, oui, mais l'histoire, non.
Alors, vous avez suivi donc, ces semaines de répétition et puis le temps des représentations pour ce film Rue du Conservatoire et notamment la dernière représentation. Et à cette occasion, Clémence Coulon, il faut citer son nom, qui a fait la mise en scène, a écrit un texte et elle leur dit...
Quelle folie ! Ce soir, le théâtre est complet ! Encore hier, des jeunes lycéens ont dit que si c'était ça le théâtre, ils voulaient en faire. Merci pour le cadeau que vous leur avez fait. Ce soir, ils vont passer 2 heures de folie. Offrez-leur votre dernière vie, vos derniers souffles, vos derniers mots. Ce soir, une page se ferme. Nous la fermons ensemble. Quel plus beau cadeau ! Et demain, une nouvelle histoire s'écrira. Nous ne savons pas dans 10 ans ce que nous deviendrons, de nos amitiés, de nos rêves. Mais c'est ce qui est sûr, c'est que ce soir... Nous allons donner nos corps, nos tripes, nos sueurs pour raconter cette histoire tous ensemble. Pas de fatigue. Toute notre putain d'âme. Vous êtes grands. Soulevez-moi ce théâtre. Soulevez-moi ces planches. Mettez le feu pour les scènes suivantes. Donnez tout à l'autre. Qu'ils se souviennent de ce jeudi 16 février. N'abandonnez jamais. Donnez vos tripes. Faites-les sentir vivants. Que cette dernière soit un feu d'artifice. Un cri de notre jeunesse, de notre liberté, de notre fougue, de notre insolence, de nos amitiés. Vous faites vos adieux tous ensemble, bordel. Alors terminez-moi cette histoire, mettez-y un point final et n'oubliez jamais Hamlet.
C'est bon.
Quelle folie, quelle foi, quelle gagne. C'est assez magnifique cette lettre qu'elle leur écrit parce qu'elle est toute entière dans ce désir de métier, dans cette représentation, dans ce temps présent.
Non mais là, ce qui était en plus particulièrement beau et émouvant, parce qu'on l'entend là même à la radio, c'est l'émotion qu'elle contient. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle a envie de pleurer en fait. Et elle se retient. Et elle a cette pudeur-là. Comme une mère qui protège ses enfants un peu. C'est hyper joli, je trouve.
Et puis, elle va finir. Ils vont tous finir cette session de 3 ans au conservatoire et cette année. Et vous racontez aussi la peur un peu du vide. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après, quand on a été comme ça, si proche pendant 3 ans, quasiment au quotidien, à monter des projets ?
Bah, c'est surtout la peur du vide, en fait, la peur du néant, quoi. C'est-à-dire que l'école, c'est aussi un endroit avec des horaires, sa structure, c'est un lieu dans lequel on se rend tous les jours, dans lequel on a des cours. Donc quand ça s'arrête, ben, d'un coup, on a du temps libre. Et surtout quand on est acteur, avoir trop de temps libre, c'est effrayant parce que ça veut dire qu'on ne travaille pas. Donc je pense que c'est la peur de tout ça. S'ils avaient tous du travail après et s'ils étaient tous embauchés dans des pièces et dans des films, ils auraient moins peur d'arrêter le conservatoire. Ce qui fait peur, c'est de ne pas travailler.
Mais vous allez les embaucher ?
Ah ben moi j'adorerais, mais je peux pas embaucher tout le monde, ça serait compliqué. Mais j'aimerais bien faire des choses. Enfin oui, je les recroiserais, c'est sûr.
Mais est-ce que ça vous a donné envie de faire du théâtre ? Vous laissez entendre cela dans le
oui,
film ?
Oui, parce que à l'époque où on faisait le film, il était peut-être question que je fasse une mise en scène de théâtre et tout ça. Oui, j'aimerais beaucoup. Oui.
Et alors, qu'est-ce qui vous en empêche ?
Ben non, ça n'a pas marché. Enfin, ça ne s'est pas fait finalement. Et puis, je ne sais pas, on verra.
On verra.
Ouais, mais j'aimerais bien. Ouais, mais je... Moi,
mais quoi, Hamlet ou La Garce ?
Je ne sais pas, peut-être quelque chose que j'écrirai, je ne sais pas.
C'est encore une autre histoire.
Ouais.
Merci beaucoup Valérie Donzelli. Merci. Rue du Conservatoire est donc à découvrir sur les écrans de cinéma à partir de cette semaine, puisque tous les films sortent le mercredi sur les écrans en France. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Et bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de RFI, rfi.fr, sur les réseaux sociaux et sur l'application Pure Radio. Vous pouvez même vous abonner à cette application. C'est gratuit, c'est pratique et c'est facile. À demain.